The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 292 de la French Connection. Cette semaine, on est avec Francis. Salut Francis.
Salut.
Yes, Steve se joindra peut-être à nous, il est pogné dans les médias. Et cette semaine, épisode spécial, on est avec Jean-François Courteau de 4DS Technologies. Salut Jeff.
Salut vous autres, ça va bien?
Yes. Donc, dans les dernières semaines, tu as sorti le rapport sur la souveraineté des données au Québec. Ça a fait bien jaser, tu es allé à Radio-Canada, ça a fait le tour sur LinkedIn. Juste avant qu'on commence, on disait justement, ça fait quelques années qu'on parle de ça, mais ça fait longtemps que c'est connu, le concept de souveraineté des données au Québec. Mais là, on est pogné dans le bordel, puis il fallait qu'un rapport sorte. Donc, merci de te joindre à nous pour discuter de ça.
Le plaisir. Yes.
Donc, fais juste m'expliquer un peu. On va passer chacune des sections, puis discuter du tout. Mais explique-moi un peu, c'était quoi l'objectif du rapport? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Juste petite intro, là. Puis tu peux évidemment t'introduire toi aussi.
Oui, absolument. Jean-François Courteau, 4DS Technologies. À la base, je suis consultant en informatique depuis de nombreuses années. C'est là que j'ai connu Patrick, entre autres, jadis, il y a longtemps. Ça doit faire quasiment 20 ans qu'on se connaît.
Presque, oui. Ouais.
Presque 20 ans. Puis j'ai crapahuté pas mal au gouvernement quand même, là. J'ai fait beaucoup de ministères et tout. Dans les dernières années, j'ai été beaucoup au MCN, mais tu sais, dans différentes firmes, puis dans différents ministères. Puis j'ai participé un peu, tu sais, au programme de consolidation des centres de traitement qui envoyaient des données vers le cloud américain, tu sais, fait que... Entre guillemets, je suis un peu coupable de ce que je dénonce aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai mis en place, là, ce programme-là, mais j'y ai participé presque depuis le départ. Et puis, tu sais, dans les dernières années, je dirais, depuis le Cloud Act américain, entre autres, c'est devenu vraiment un enjeu au niveau de la souveraineté des données parce que, entre guillemets, on peut se faire saisir un peu n'importe quelle donnée qui est dans une entreprise américaine, qui est sous contrôle américain. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment freaké, puis je suis dans mes propres infras depuis 2017. J'ai eu un compte Gmail là, au début de Gmail. J'ai été dans les bêta-testeurs, entre guillemets. Là, tu peux te faire une demande, puis ça doit faire depuis 2004 peut-être que j'ai un compte Gmail. Ça fait vraiment longtemps. Puis, j'ai été longtemps dans ces infras-là. Puis, à un moment donné, quand j'ai vu ça passer, j'ai dit, non, c'est pas vrai que n'importe qui va pouvoir accéder à mes affaires. Puis, c'est pas parce que je fais des trucs top secrets, là, loin de là. Mais je me suis dit, tu sais, comment je peux faire pour avoir le plein contrôle sur mes affaires? Fait que j'ai commencé à explorer ces possibilités-là vers 2016-2017 de m'auto-héberger, tu sais, mon nom de domaine, mes serveurs et tout. Mais, tu sais, sans plus... J'ai fait de l'hébergement un peu, mais veux pas, tu sais, je travaillais au gouvernement dans les grandes entreprises, puis jusque-là, à peu près tout le monde s'auto-hébergeait, tu sais. Si on retourne à peu près 10 ans en arrière, les entreprises avaient leurs infra, ils avaient leurs équipes TI, ils géraient leur hébergement web, leur email.
Oui. Même les ministères, ils ont tout un data center dans presque chaque bâtisse.
Ouais. Avant de commencer le PCCTI, il y en avait 465 data centers de ministères et organismes. T'sais, je connais le chiffre là, parce que j'étais là au début. Puis le but, c'était de prendre les 465 data centers puis de ramener ça à 4, qui étaient les data centers consolidés du gouvernement, puis de ramener juste 20% du stock à l'interne puis 80% vers le cloud. On s'entend, c'est quelqu'un qui a lu la loi de Pareto puis qui s'est dit « on va faire un beau 80-20 avec ça ». Mais, tu sais, dans les faits, il y a eu toutes sortes de normes qui ont été mises en place là, pour dire, OK, ça peut aller vers le cloud, ça non, tu sais, puis ça c'est à l'interne, là, dans le temps où c'est SPQ, après ça ITQ, après ça MCN, là, que tout ça s'est fait. Tu sais, grosso modo, depuis à peu près une dizaine d'années, pas juste les ministères et organismes, là, mais tu sais, les entreprises s'en vont vers le cloud. C'est qui les fournisseurs de cloud? C'est Microsoft, en premier, en haut de tout, là. C'est vraiment le premier. Après ça, tu as AWS. puis après ça, tu as les autres. Tu sais, tu as Google qui est peut-être un peu en avant, puis après ça, tu vas avoir du Oracle, du IBM, puis toutes sortes d'autres trucs. Quelques fournisseurs québécois, mais tu sais, c'est quand même assez limité. Donc tu sais, moi, à la base, je prenais une marche avec ma blonde dans la rue, puis on jasait un peu de mon entreprise, tout ça, puis elle dit, « Es-tu capable de savoir où quelqu'un est hébergé? » Je dis, « Ben oui, tu sais, c'est sûr que ça se fait, là, tu sais, de voir qui est hébergé où. » Je dis, « Fine, ben je peux essayer de faire un outil, tu sais, qui va nous permettre de découvrir, tu sais, qui est hébergé où. » Puis au départ, j'ai fait ça juste pour mes clients, tu sais, pour trouver où sont mes clients. Puis après ça, j'ai dit, « Crème, je vais essayer de découvrir chacun, t'sais, différentes organisations, voir sont où, pour essayer de pousser un peu plus loin la patente. » Puis c'est là que je me suis dit, « Crème, les sites du gouvernement doivent bien être répertoriés quelque part. » Fait que j'ai pris le répertoire des sites du gouvernement, j'ai investigué, j'ai fait le tour, puis j'ai dit, « Crème, je vais consigner ça quelque part. » Fait que ça a vraiment commencé là, une idée un peu random, tu sais, d'essayer de juste trouver qui est hébergé où. Puis finalement, ben en regardant, j'ai bien vu que le 80-20 en question, là, c'était rendu entièrement du côté américain, tu sais, vraiment, là,
oui,
c'est fait, là, tu sais, les entreprises sont rendues chez les fournisseurs américains, les ministères organismes, les villes, puis que ce soit des PME ou des grandes entreprises, sont toutes rendues là. Fait que je dis, crème, faut que ça se dise à quelque part, arrêtez de tout chipper vos affaires là-bas, parce que oui, il y a la question des données, mais il y a la question de la business. Tu sais, moi, là-dedans, je me voyais un peu comme entrepreneur, essayer de convaincre quelqu'un de dire, viens-t'en chez nous, je vais héberger tes données, viens-t'en chez nous, je vais héberger ton site web, puis je vais héberger tes emails. Ah ouais, mais là, mon Teams, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais? J'étais comme un peu pogné, là, à dire, faut que j'essaie d'avoir un avantage concurrentiel sur Microsoft, tu sais, pour essayer de trouver des clients. Fait que, c'est un peu comme ça que ça a parti, tu sais, ça a parti à l'automne passé. J'ai commencé à consigner ça. J'ai commencé par le gouvernement du Québec. Je me suis dit, tabarouette, OK, tout le monde est rendu chez Outlook au gouvernement parce qu'il doit avoir un gros contrat d'acquisition.
Mm-hmm.
Puis là, après ça, j'ai étendu ça. J'ai dit, ah, ben crème, un palmarès des grandes entreprises, les PME, les villes. Fait que c'est un peu comme ça que ça a parti. Tu sais, c'est pour ça que je l'ai assemblé un peu tranquillement. À partir de peut-être novembre, là, que j'ai vraiment commencé à travailler là-dessus, puis que j'ai fait évoluer ça là, jusqu'à la sortie là, au mois de mars. Là. Bonjour, Steve.
Ça fait du sens. Salut, mon Steve. OK, fait que ça fait beaucoup de sens. Puis, ça mm-hmm. t'a pris combien... Tu dis que tu as commencé ça en octobre, mais ça t'a pris combien de temps? C'était-tu compliqué? C'était quoi l'approche? C'était pas mal juste des scanners web? C'est quoi...
Ouais, ben écoute, moi je me suis trouvé un API, je me suis fait un petit outil sur mon site web mm-hmm. Qui facilement peut me permettre de sortir pour un nom de domaine où se trouve l'adresse IP, chez quel fournisseur, puis après ça, ben, trouver les fournisseurs de mail qui sont en arrière aussi pour le domaine. C'est des entrées A, des entrées MX, c'est extra basic. Sauf que je me suis dit, avec cet outil-là, je peux rapidement arriver chez quelqu'un et dire, ben regarde, ton site web est chez GoDaddy, puis tes mails sont chez Gmail. Regarde, moi, je peux tout te rapatrier ça chez nous. Tu sais, c'est un peu ça l'objectif au départ de cet outil-là. Mais après ça, ben je me suis dit, crime, il est super facile à rouler. Fait que j'ai pris toute la liste de domaines du gouvernement du Québec qui sont répertoriés sur québec.ca au départ, tu sais. Fait que là, ben, mm-hmm. j'ai fait le tour, il y en a 180 quelques. C'est quand même de la job, parce que là, j'ai tout consigné ça dans un fichier Excel, hein, parce que, ben, pas Excel, mais LibreOffice Calc, pour faire quelque chose d'open source. Mais bref, j'ai tout consigné ça dans un tableur. Puis après ça, ben, j'ai dit, je vais faire des statistiques. T'sais. Fait que c'est vraiment à partir de là. Puis toutes ces données-là, là, les tableurs en question là, sont mm-hmm. toutes disponibles là, avec mon rapport en même temps. Là, c'est toutes des données disponibles publiquement. Puis c'est un peu une photo, hein, parce que tout ça peut bouger avec le temps. Là, mais grosso modo, là, c'est une photo là, d'entre novembre puis février, mettons, là, qui est l'inventaire que j'ai fait.
Là. Fait que là, on parle de tout l'ensemble des ministères, les 40 plus grandes villes du Québec, les 30 plus grandes entreprises, Donc, ils ont un siège social ici, évidemment. Puis les 40 plus grandes PME. All right. Ouais. Fait que fais-nous un petit tour de c'est quoi les statistiques de haut niveau, puis qu'est-ce qui t'a peut-être le plus surpris ou pas surpris, parce qu'évidemment, t'as ben, comme déjà une idée, oui.
Ben, tu sais, honnêtement, au gouvernement du Québec, je le savais déjà là, que c'était très, très tagué Microsoft au niveau des emails. Tu sais, si on prend ça, parce que c'est vraiment là qu'il y a des données. Si on prend au niveau des sites web, veux pas, ça demeure souvent juste une vitrine. C'est rare que, tu sais, que toute l'application ou l'applicatif core de la business va être dans le site web. Tu sais, c'est souvent à côté, puis c'est d'autres choses. Mais si on se concentre juste sur les mails, du côté du gouvernement du Québec, c'est presque 90 % du côté Microsoft. Ça, c'est le constat que j'ai vu. Tu sais, à un moment donné, j'étais juste tanné de le mettre. Tu sais, c'était une recopie de top-down, là, pratiquement. Là. C'était oh, tout d'un coup, il y en a un organisme obscur à quelque part qui, lui, est hébergé chez Symantec ou une patente autre là, pour ses spams. Fait que, tu sais, ça, ce bout-là, je le savais, mais en le voyant, là, ça m'a un petit peu levé le cœur quand même. Tu sais, je me suis dit, OK, fait que ces gens-là, ils ont leur mail chez Microsoft, mais c'est pas juste les mails, là. Puis quand tu regardes toute la liste de ministères organismes qu'il y a là-dedans, tu sais, je comprends le ministère du Tourisme, il n'y a pas tant de data sensibles, mais si tu parles de Hydro-Québec, Sécurité publique, Sûreté du Québec, la justice, tu sais, c'est des données... extra sensible.
Non. J'arrêterai de ça là.
Ah, vas-y.
La classification de l'information, ça n'existe pas de l'extra sensible. Toute l'information qui a été véhiculée dans le nuage, l'info nuagique commercial, ça respecte la norme jusqu'à niveau protégé B, tel que le décret de décembre de 2024. Alors, l'information qui devient plus juteuse, on va l'appeler comme ça, l'information policière, mettons, ben, elle est gardée localement. Dans les centres de données du gouvernement du Québec. Bien, tout ça, elle a un libellé, oui, qu'elle est davantage axée sur la protection de l'information qui pourrait causer préjudice très grave à quelqu'un, voire la mort.
Oui, exact.
Mais tout ça, par exemple, le santé, tout ce qui est élément santé, financier, l'impôt, ces choses-là, c'est pas mal du quotidien. C'est ça qui fait défaut présentement au gouvernement du Québec, même au fédéral, à baie des instances, mais ils sont moins pires, c'est que l'information, elle a été cataloguée et classé au fédéral, ce que le gouvernement du Québec est en train de faire depuis 3-4 ans. Et c'est loin d'être rendu juste cette classification-là. Parce que là, présentement, l'odieux, puis ça rejoint un peu le rapport, c'est qu'ils travaillent avec quelle information, mais là, ils disent, bien, on ne sait toujours pas, on va classer ça comme tout partout, c'est la même mosuse d'affaires. Ah oui, le rapport d'impôt de Jean-François Courteau, il est de même niveau d'importance que l'horaire du premier ministre. C'est là que, oups, il y a du connect, là, tu sais. Puis, ils sont en plus sur les mêmes systèmes d'information. C'est là que je te rejoins en disant, wow, attends un peu, là. C'est juste un checkbox qui dit, lui, il est autorisé à le voir, l'autre, il ne l'est pas. C'est juste ça, la sécurité qui sépare les deux. C'est fou raide, là.
Mais il y a quand même un point super important dans ce qu'on dit là. Tu sais, oui, il y a l'information qu'on va stocker. Tu sais, les emails qu'on échange, les fichiers... Word, Excel, PowerPoint, whatever, qu'on va aller stocker sur OneDrive parce que quand tu es au gouvernement,
par défaut, c'est OneDrive.
C'est ça, c'est le data que tu viens stocker. Ça, c'est une chose, puis je suis bien d'accord. Il y a des classifications, tout ça. Puis pour amener ce data-là vers le cloud public, les ministères organismes, avant de s'en aller vers le cloud, ont dû faire, ils appelaient ça une analyse de préjudice. Là, puis ils faisaient une analyse de préjudice, puis... Selon la classification de la donnée, ils pouvaient dire, OK, ça, on peut amener ça vers le cloud public, et ça, non, ça doit aller vers le nuage gouvernemental. Il y a déjà une certaine classification quand même qui s'était...
Très déficiente, je peux te le confirmer, qu'est-ce qui était fait, la façon que ça a été fait pour qu'ils prennent cette décision-là et amener 85 % des données publiques vers l'info nuagique commerciale. Cependant, le contenant qui se représente toutes les data centers, il est très sécuritaire. Ça répond à toutes les normes et même les excès dans bien des égards. La problématique réside justement dans le fait que la façon que c'est protégé, donc une fois déposé, les accès donc de certains portails, l'utilisation de deuxième facteur d'authentification, c'est ça qui fait la différence. Et que quand on entend parler qu'il y a des instances dans le cloud qui ont été compromis, mais c'est souvent par là. Et ça part du PC des opérateurs. Mais par contre, lorsqu'on dit que tout est rendu dans le cloud public, ben oui, ça, c'était la première étape. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-François, c'était pour faire le dégarnissage de tous les serveurs qui traînaient des garde-robes oui, partout exact. Dans la province, puis faire une rationalisation. Le fondement de ce geste-là était « mettons-la en sécurité là, puis après ça, on verra ». Mais là, on verra, on est rendu là avec ton constat. Mm-hmm. Et à la teneur que ça va coûter très cher à ressortir les données de ces infos nuagiques-là, je pense que ça va rester de même pour un bout encore.
Mm-hmm. Absolument. Mais tu sais, il y a le data qu'on va stocker, ça, c'est une chose. Mais après ça, là, moi, ce qui me flabbergaste, là, c'est le fait que souvent, quand je dis souvent, mais c'est tout le temps, là, les ministères organismes utilisent Outlook pour leur email. Puis on le sait très bien qu'en arrière, c'est tous les produits Microsoft, incluant Teams.
Oui.
Teams qui est utilisé après ça pour toutes sortes de réunions. Je veux dire, j'ai jamais vu un autre produit que Teams à l'interne au gouvernement.
Alors, ça s'est
ces données-là vont aller transiter chez le fournisseur. Oui. Et c'est super pratique. Hey, wow, il y a une belle fonction de transcription par l'IA.
Clic, exact.
Bang, ça s'en va tous ces serveurs chez le fournisseur. C'est tout traité là-bas. Puis évidemment, il doit certainement garder des traces à un moment donné.
Ton day-to-day de données sensibles peut s'en aller dans ce
workflow. Exactement. Parce que tu auras beau avoir des belles affaires stockées super safe dans tes systèmes locaux. Si tu jases de ces affaires-là dans Teams.
C'est game over. Puis Teams, puis Slack, toutes ces affaires-là, c'est une mine d'or d'informations. Même si la donnée s'en va nulle part, elle y va, là, mais si tu as accès à ça, même si tu es local, là, c'est un bordel de données sensibles. Mais moi, l'autre point que je comprends pas, ou plutôt, Steve, tu as peut-être une vision là-dessus, mais OUS, le cloud, ils ont mis en place FedRAMP, qui force toute entreprise à aller dans le cloud gouvernemental puis de se certifier que leur logiciel, généralement, il crée un deuxième cloud, un deuxième environnement 100% isolé juste pour le gouvernement. Là, ici, tu as le gouvernement qui s'en va dans un cloud d'un autre pays qui est dans le cloud public de l'autre pays qui n'est même pas un cloud isolé gouvernemental. Qu'est-ce que c'est ça qui se passe, là? Ça ne marche pas, ça.
Bien, la norme, Pat, pour te répondre à ça, là, ben la norme qui a été sélectionnée, premièrement, c'est un profil au gouvernement fédéral qui a été à voir, donc ça s'appelle « Profil et mesures de sécurité pour les services du gouvernement canadien fondés sur l'info nuagique ». Puis les normes qui ont été sorties de là, c'est d'avoir en confidentialité jusqu'à protéger B, parce que le chiffrement commercial est réputé jusqu'à protéger de cette sensibilité-là, et avec une disponibilité et une intégrité de niveau moyen. Fait que basé là-dessus, tous les clouds qu'on décrit, Amazon, Google, Apple ne sont pas considérés.
Oui, ils supportent jusque-là.
Et voilà, ça, eux autres, ils ont été certifiés tant par le gouvernement.
Mais donc, je comprends, mais mon point, c'est qu'au US, même à ce niveau-là, c'est un cloud isolé FedRAMP avec certification.
Et après ça, tu en as, comme tu dis, une portion gouvernementale. Et quand j'ai demandé ces questions-là, il n'était pas question que le gouvernement étranger, étant nous autres, on ait accès à ce service-là de chez Microsoft.
Non, ça je le sais, mais nous-mêmes...
Ça s'explique mal pourquoi qu'on ne pourrait pas y avoir. On a une fonction gouvernementale au même titre qu'aux États-Unis. Fait que pourquoi l'identité...
C'est les US qui ont forcé d'avoir ça.
Ben, c'est ça. Évidemment. Vu qu'on n'a pas de levier et d'épine dorsale, ben, c'est là qu'on est pogné avec l'élément commercial.
Mais là, on n'a même pas pensé de faire la même chose localement non plus, là.
Oui, il y a quelque chose de commercial local. Puis ça, c'est par la rationalisation qu'ils ont établi que 4 data centers présentement.
Et mais ça, c'est à l'intérieur du gouvernement. Moi, je parle d'un cloud, tu sais, de forcer les entreprises à avoir un environnement pour le gouvernement. Tu sais, un peu comme...
Comme un environnement dédié, oui.
L'environnement dédié à la FedRAMP, dans le sens que si tu veux travailler avec le gouvernement, il faut que tu aies un environnement gouvernemental sécuritaire. C'est ça FedRAMP au final. Là.
Oui, exactement. Mais je suis d'accord. À moins que GF, tu l'as vu ailleurs, mais je n'ai pas vu aucune offre, que ce soit ShareWeb, Micrologic ou les autres, R2I et tout ça. Je n'ai pas entendu parler qu'il y avait cette offre-là gouvernementale, justement, pour attirer ces contrats-là.
Tu as raison, mais la demande devrait venir du gouvernement, pas de dire vous devez. Ben, FedRAMP, c'est fédéral. Là. C'est le gouvernement qui dit gouvernement si tu veux travailler avec moi, voici les items que tu dois mettre en place.
Le gouvernement ici va dire ben voici, on a fait nos exigences, puis un courtier en info nuagique, puis va le voir cogner à sa porte, c'est lui qui a toutes les exigences.
Oui, Ben, ça devrait être ça. Mais même une PME qui veut travailler avec le gouvernement fédéral aux US, s'il y a un environnement SaaS, il va dédoubler son environnement SaaS pour qu'elle soit FedRAMP pour aller à côté. Tu n'as pas de ça ici.
Non.
Non. Non.
C'est ça qui est dommage. Non, ça, parce que ça réglerait beaucoup, beaucoup de problèmes. Tu as le problème d'aller aux US, oui, mais tu n'as même pas de certification et de vérification de sécurité.
Non.
Ça ne marche pas. C'est, mm-hmm. Ça va plus loin que le rapport, mais je pense que c'est là la prochaine étape. Là.
Mais il faut quand même dire, oui, ça pourrait être une étape subséquente, parce qu'il faut quand même dire mm-hmm. qu'au départ, il n'y en avait pas là, tant que ça des grosses infonuagiques. Mettons, si on regarde à Québec, là,
tout à fait.
Actuellement, il se construit des gigacentres de données. T'as Microsoft et Amazon qui construisent des gros centres de données, puis t'as Vantage aussi le long de Droit de Charest qui se construit. Il y en a des gros qui se construisent maintenant parce que probablement ils se sont dit on a des beaux contrats avec le gouvernement, puis ils vont demander d'avoir les données localement hébergées à Québec. Donc on va s'installer là. Comme les data centers sont plus venus après le contrat.
Ouais, ouais,
oui. Au départ, il y avait un petit data center, je pense, chez Hypertech là, à Québec. Là, je ne me souviens pas quel nom c'est rendu. Puis sinon, tu avais un peu de Montréal, puis tu avais du Toronto. T'sais, c'était vraiment ça, là, les fournisseurs infonuagiques au moment qu'on a commencé la consolidation des centres de traitement. Ouais. Là, maintenant, c'est sûr qu'il y en a plein qui sont allés vers là. Ils n'ont pas eu le choix de développer du compute et du storage pour être capable d'héberger tout ça, puis permettre d'accueillir le data supplémentaire. T'sais, moi, j'en ai vu des ministères organismes s'en aller en Virginie parce que et ils se disaient, moi, je n'ai pas besoin que ce soit au Canada pantoute. Je donne un exemple quelconque qui n'est pas vrai, là, mais je vais dire, mettons, je vais tout le temps dire le ministère du Tourisme là, quand c'est pas sensible. Là, je veux dire, les numéros CITQ, là, on s'en tape un peu où ils sont stockés, là, mais à part de ça, du moment que ça devient un peu sensible, ben là, ils sont quand même sensibles un minimum à dire, OK, ben là, je vais prendre le data center qui est à Québec, je vais prendre le data center qui est à Montréal. Mais ça, c'est physiquement, oui, il est là. Après ça, ben, tu regardes la corporation qui est en arrière, elle est américaine. Fait que finalement, à quelle place tu as mis, tu as donné, ça n'a plus vraiment d'importance parce que, anyway, elle peut être saisie. T'sais.
Ouais, mais attention, là, c'est là que je voulais aller, là, puis il faut arrêter ce Moses d'histoire de bonhomme 7 heures que le Cloud Act, c'est la permission d'aller dans le buffet. Le Cloud Act de 2018, là, ça prend une autorisation judiciaire, puis Francis va pouvoir expliquer mieux que moi, là. Mais fondamentalement, l'enquête policière d'ici va faire les mêmes démarches auprès des instances, puis ils vont aller aussi avoir accès jusqu'à comment est-ce que le décret, pas le décret, mais plutôt le mandat a été rédigé. Fait que les autorités américaines, c'est ça qui est le. Puis là, juste pour ajouter un peu d'huile sur le feu, le 47e président déclarait aujourd'hui sur son Truth Social qu'il voudrait mettre un FISMA dehors, autrement dit, pour éliminer eux autres qui lui ont fait du tort dans le passé. Fait que là, ça devient l'élément légitime, légal, le judiciaire. C'est juste ça qui nous sépare, du moins les États-Unis, d'une entité totalitaire comme la Chine, qu'eux autres, avec la loi sur le renseignement de 2017, à volonté, ils peuvent aller piger dans n'importe quoi qui est hébergé, ou du moins le siège social est en Chine, peu importe où, surtout à Hong Kong. Puis que là, nous autres, ben oui, effectivement, c'est toute la raison du pourquoi qu'on se lance dans cette souveraineté numérique. Ben c'est pour se soustraire à qu'est-ce qu'on voit, je crois, se dessiner à l'horizon américaine, qu'éventuellement, si jamais toutes les safety nets là, qui s'en vont au judiciaire, ben c'est justement, on voudrait peut-être pas tomber dans leur façon de faire qui va être dramatique. Là. Ça, je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. Mais avant de dire que c'est ça qu'ils font systématiquement, c'est pas vrai. Là. Il n'y a pas c'est une pas, compagnie...
C'est pas systématique, mais il y a eu des exemples. On l'a vu avec l'Europe. Là. Ils l'ont fait récemment. Là. C'était dans
oui, je ne sais pas sur ça, mais je vais intervenir là-dessus. Là. Cancellé au complet, là, tous ces accès, plus de carte Visa, plus rien. J'ai vu ça passer. Là, oui.
Exact.
Ils ont décidé que ce monsieur-là là, qui a fait un décret quelconque, ou en tout cas, il a fait un jugement quelconque contre Netanyahou tout d'un coup. On t'enlève tous tes accès, plus de Microsoft, plus de
voilà,
Google.
La Cour pénale internationale. Oui, mais juste pour enchérir sur ce que Steve a dit, grosso modo, avant le Cloud Act, c'est la grosse différence. Avant le Cloud Act, le gouvernement américain allait chercher un mandat, par exemple, pour aller chercher des données chez Microsoft. Donc, un ordre judiciaire pour aller chercher les données. Avant le Cloud Act, Microsoft pouvait dire les données que vous nous demandez de vous donner, elles appartiennent à une compagnie canadienne et elles sont hébergées en sol canadien. Alors, Microsoft pouvait refuser d'appliquer le mandat qui était donné. Il pouvait contester, OK? Un peu de la manière que Apple a contesté là, le truc là, pour hacker les téléphones là, suite à l'attentat de Boston. Là. Donc, il y avait matière à contestation. Ça ne veut pas dire qu'elle allait gagner ou pas, là, mais il y avait matière à contestation. Ce que le Cloud Act est venu dire, c'est si les données sont sous contrôle d'une compagnie américaine, l'endroit où se situe la donnée n'a aucune importance. Fait que le Cloud Act, là, un des gros morceaux, qui est pas, si ce n'est pas le morceau principal, c'était de venir clarifier ça parce que dans le passé, quand on voulait aller chercher des données dans un autre pays, on était obligé de faire des demandes à l'autre pays. Il y a un principe qui s'appelle, on utilise le MLAT, M-L-A-T, je ne me rappelle jamais c'est quoi l'acronyme, mais c'est une espèce de mandat inter-pays où est-ce que, par exemple, le Canada veut pogner un pédophile qui est en France. Le Canada va faire une demande extraterritoriale à la France. Bon. Les Américains, en se dotant du Cloud Act, ont tout bypassé ça. Dans le sens que si les données sont contrôlées par une compagnie américaine, peu importe elles concernent qui, peu importe elles sont situées où, on peut y avoir accès. Mais comme Steve dit, c'est pas comme aux douanes. Ce n'est pas parce que je veux y avoir accès que j'ai accès. Je dois passer par un contrôle judiciaire pour avoir un mandat pour pouvoir y aller. Est-ce que ça expose les compagnies à être exposées aux Américains? Oui, mais ça reste que c'est pas, il n'y a pas de magie là-dedans, mais oui, c'est un élément de plus pour exposer les compagnies canadiennes, tandis qu'avant, il aurait fallu faire un MLAT. Au minimum, le Canada aurait été au courant que les Américains étaient en train d'aller chercher des données chez une compagnie américaine. Une compagnie américaine, mais sur des données d'une compagnie canadienne en sol canadien, au moins on l'aurait su. Là, en théorie, on pourrait ne pas le savoir.
Puis là, ça revient, je pense, à... Excuse-moi, Pat, ça revient, tu sais, Steve, je comprends super bien ton point de dire, tu sais, il faut quand même qu'il y ait un mandat pour aller demander ces données-là, etc. Puis ça revient à dire à quel système de justice tu fais confiance. T'sais, moi, le système de justice canadien, j'y fais confiance relativement. T'sais, c'est extrêmement rare qu'on voit des malversations épouvantables dans le système de justice.
Ben, il y en a eu en 2021. Hein?
Comment tu dis ça?
Il y en a eu beaucoup dans la pandémie.
Wow. En tout cas, ben, des entorses, mettons, réglementaires, on peut dire. mais t'sais, grosso modo, j'ai quand même une confiance assez grande au système de justice canadien. Le système de justice américain, si on parle avant le mandat récent de Trump, ben, j'y avais relativement confiance. T'sais. Mais là, quand on voit toutes les manipulations qui se font au niveau légal aux États-Unis, ouais, et que finalement, lui, il dit « Ah ouais, tu m'empêches de faire ça au niveau de la Cour suprême, ben mange de la marde, je le fais pareil. » Ben, finalement, il répond qui, ce gars-là? Il répond plus personne. Là.
Là-dessus, Jean-François,
je voudrais ajouter un point. Je voudrais ajouter un point qui, pour moi, est critique dans le débat, puis je ne le vois pas dans le rapport, du moins très peu, mais on parle beaucoup de confidentialité des données, puis vous le savez, moi, quand on parle de sécurité des données, j'aime toujours ça qu'on rajoute, si on parle de confidentialité ou d'autre chose, parce que la sécurité des données, ce n'est pas de la confidentialité. On parle de confidentialité, mais moi, là, en termes de disponibilité, là, je suis très interpellé. Ce qu'on disait tantôt, par exemple, sur la Cour pénale internationale, que tout d'un coup, on dit... Plus de carte de crédit pour le monsieur, plus de compte bancaire, plus ci, plus ça. Là, tu dis, oh, t'es un peu, là on est dans la disponibilité all the way. Moi, demain matin, on le vit avec Facebook. T'sais, je trouve ça drôle, l'histoire du gouvernement du Québec, là, avec les espèces de codes de la codification de l'information, la classification de l'information de manière boiteuse. On fait juste un petit morceau et on dit, oh, la disponibilité, ça va être moyen, puis l'intégrité, ça va être moyen. T'sais, on a comme un petit peu lancé ça comme Harry Potter avec de la magie. Mais ça reste que demain matin, on l'a vécu avec Facebook. Demain matin, Meta dit « Hey, les journalistes n'ont plus accès. Ben, » ils mettent la switch à off, c'est fini. Est-ce que demain matin, le gouvernement américain pourrait décider de dire « Bon, on veut faire mal à l'économie canadienne. » Ben, Microsoft, là, non, on met ça à off. Plus de Microsoft pour le Canada. AWS, on met ça à off. Et là, la disponibilité, là, ben, je ne sais pas c'est où qui ont évalué le gouvernement du Québec, le médium, comment on évalue ça. Et quand tu as quelqu'un de l'autre bord de la frontière qui peut mettre la switch à off, j'essaie de voir comment ça, ces médiums-là. Fait que ça, je pense qu'il y a des vrais enjeux là-dessus.
Ben Francis, c'est pas compliqué. Il n'y a pas personne qui était capable, jusqu'à récemment, envisager que le bon voisin pourrait nous couper les vivres de même. Mm-hmm. Parce qu'oublie pas, même à Ottawa, présentement, là, le gouvernement fédéral respire à cause de Microsoft. Tu fais la même
mais,
scénario.
Mais c'est insensé, alors qu'avant, oui, on avait Word qui roulait. Puis je reviens à ce que je dis. On parle de Ben oui, on parle de rationaliser à un moment donné l'État. Ben, j'écoutais M. Courteau tantôt avec, je ne me rappelle jamais si c'est LibreOffice, OpenOffice, ça a changé quatre fois de nom.
LibreOffice.
Peu importe. Il y a des logiciels open source qui, sérieusement, ça fait en masse la job, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que là, arrêtons de capoter avec Microsoft. Puis il y a beaucoup de fonctionnalités que les gens n'utilisent même pas. Et là, ce qu'on a fait, on crée des signes of point of failure parce qu'on est tous intégrés avec une seule plateforme. Si ça arrête de marcher, bien, ça arrête de fonctionner. Et au-delà de où sont nos données, ce qui était traité dans le rapport de M. Courteau, rapport que j'ai trouvé très intéressant en passant, là. Je trouve que c'est pas complet comme rapport, mais je trouve que c'est un bon point de départ pour amener la réflexion puis forcer le débat, là, dire, attendez un peu, là, il y a vraiment de quoi qui a été fait de concret, voici une partie de la réalité. Il y a d'autres parties qu'on ne voit pas, mais il y a toutes les dépendances aussi. Hein. On l'a vécu avec Cloudflare. Là. Tu sais, quand tu es rendu que tu dépends d'un seul fournisseur dans le monde et que ce fournisseur-là arrête de marcher une journée, ben, tu sais, puis là, on parle de sécurité des infrastructures essentielles puis plein d'affaires.
Il y a eu AWS aussi, là, ça a été la même affaire là, comme constat, tu sais.
Et quand GitHub,
Microsoft tombe, là, même affaire, ils l'ont tout eu. Là. Le problème de DNS ou le problème de BGP, ils l'ont tout eu.
C'est ça, exactement.
Fait que vite comme ça, le gouvernement du Québec, les adresses IP, la géolocalisation de celle-ci, tu as trouvé que 75% est au Canada. Mais dès qu'on switch au niveau du serveur web, on tombe à 55% aux US. Fait que ce 75%-là... Il disparaît assez vite.
Oui, bien, en fait, c'est simplement parce qu'ils demandent, quand ils créent leur tenant Microsoft, de dire « Je veux me créer dans le territoire du Canada. » Probablement que ceux qui sont pas au Canada au niveau de leur messagerie, c'est simplement qu'ils n'ont pas coché l'option ou qu'ils s'en foutent ou whatever. Mais au niveau du site web, tu sais... Je comprends là, de vouloir protéger ton site avec un Cloudflare ou
mais il existe des solutions web application locales.
Firewall. Tu sais. Comment?
Il existe des solutions locales du Québec, puis il y en a d'autres au Canada. Il n'y a pas de raison de ne pas faire ça.
Application firewall. Il y en
oui, c'est open licences. Source. Mais oui.
Il y en a plein des licences. Il y en a des open source. Il y en a qui ont besoin de licences. Puis ils les possèdent, les licences, pour les web application firewall, pour protéger des sites web et toutes sortes d'infrastructures. Là. Mais pourquoi tout shipper chez Cloudflare en plus quand on sait que c'est quand même, comme on disait tantôt, un single point of failure? Quand Cloudflare meurt, le tiers d'Internet meurt, tu sais, dont les plus gros sites, les plus grosses outils de productivité qui sont morts en même temps. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport. Là. Faites-le chez vous, au pire. Tu sais, héberger un site web, c'est quand même pas si compliqué que ça. Là. Un coup que tu as. T'as ton serveur Apache, Nginx ou IIS parce qu'il aime bien ça des produits Microsoft. Après ça, OK, tu mets un quelque chose en avant, des firewalls, web application firewall que tu tunes pour ton besoin. Puis, Christy, t'es bon pour une couple d'années, puis t'as pas besoin de payer un abonnement qui finit plus, puis tu dépends pas d'un fournisseur externe pour donner de l'informatif, tu sais. Parce que.
Non, puis est-ce que tu es obligé que tout le gouvernement du Québec ait exactement la même solution mur à mur partout? Où on peut avoir deux, trois solutions pour être opérationnel un minimum quand ça arrête de fonctionner.
Si ce n'est pas 200 solutions, ça va.
Ben non, ben c'est on ça. Il y a une question de logique. Là,
oui,
mais est-ce qu'on peut avoir deux, trois solutions et dire, regarde, on, les endroits bien critiques, on vous demande d'en avoir deux pour être sûr que s'il y a quelque chose qui plante, mise à jour, on est capable de rouler. De la même manière, là, on parle d'adresse IP au Canada. J'aime ça, j'aimais ça quand je suis tombé là-dessus. Il y a combien d'adresses IP au Canada? Le monde du virtuel aime bien ça, les adresses IP au Canada. Mm-hmm. Mais que l'adresse IP, quand tu la suis, elle est au Canada, mais elle pointe sur un serveur qui est installé dans un édifice au Canada qui appartient à une compagnie américaine. Ben là, on tourne en rond. Là. On peut-tu commencer par du brick et du mortier? Puis même là, en sécurité, je vais emmener la sécurité physique là-dedans. quand on a décidé de rapatrier, là, avoir 3-4 gros méga data centers québécois gouvernementaux, là, imaginez-vous là, que vous avez 3-4 gros sites comme ça, là, là allez coucher les enfants, il ne faut pas que les enfants entendent ça parce que ça pourrait lui donner des mauvaises idées. Et si vous êtes un terroriste ou un bandit, arrêtez d'écouter ça parce que ça pourrait vous donner des idées aussi. Mais ça reste que si on a 3-4 gros sites au gouvernement du Québec, imaginez-vous, là, la Société d'assurance automobile du Québec, la Sûreté du Québec, je sais pas, la Régie des rentes, nommez-les. Là. Moi, j'ai déjà visité des sites, des data centers. Là. Il y a un agent de sécurité, des fois deux à la porte. Là, je vais faire de l'âgisme. Là. C'est un monsieur de 68 ans. Il n'y a pas de gun, il y a fuck all, mais lui, il y a une carte d'accès qui rouvre tout. Fait que moi, là, si je veux crisser le feu, détruire le data center, j'arrive là, puis je fais semblant d'avoir un gun, tu sais, dans mes poches là, ou dans un sac de papier brun, là, puis je dis bonjour, donne-moi ta carte. Qu'est-ce qu'il va faire, le monsieur? Il est formé, entraîné à faire quoi? Remettre la carte. Imaginez-vous que j'attaque 3-4 sites en même temps. On fait ça à combien de gars, ça? À 8 gars. Imaginez-vous, à 8 gars, là, on détruit toutes les données de l'assurance automobile du Québec, toutes les données de la SQ, toutes les données de la Régie des rentes du Québec. Vous avez une idée, là, on fait ça à 8 gars, là, on vient d'envoyer le Québec à l'âge de pierre. C'est qui s'occupe de ça au gouvernement, de planifier ça?
Ah, y en a-tu un CSO au gouvernement, mon Francis?
Il n'y en a pas de CSO officiel au gouvernement. Et ça, ils comprennent pas ça. Ils disent, hey, on a de la redondance. Oui, mais tu as de la redondance, Asti, mais... As-tu une idée que ton agent de sécurité, là, c'est mieux de ne pas en avoir. Au moins, il n'y aura pas de carte master qui va se promener dans l'édifice.
Pas juste ça, la redondance, là. J'ai jamais vu une entreprise, ben, il y en a quelques-unes, là, mais c'est rare en sacrement, qui a testé sa redondance. Et puis, il y a un méga data center qui passe au feu comme OVH, là. Bonne chance de tester ta redondance. C'est pas deux serveurs, là.
Ouais, c'est quand ça arrive de même qu'il se rappelle qu'il avait oublié une coupe de patente, là.
Ah oui, il n'y avait pas de deuxième lien Internet, il n'y avait pas de
entre les deux. Moi, Pat, je pense celui de Marseille là, qui n'avait pas de gicleur dans la pièce, puis c'était tout en bois, puis un feu d'UPS a crisé le feu dans le centre de données, puis bah, il s'est parti. Il y a eu un vrai cloud qui s'est dessiné au-dessus.
C'était là. Celle-là, je pense, mais ouais, ouais.
Non, ils ont vraiment transféré les données dans le cloud.
Mais je vous dis, par contre, la redondance réseau est testée. Ça, moi, je l'ai testé personnellement. Là. Ça, ce bout-là, il est bon. Là. Mais tu sais, je comprends qu'après ça, c'est tous les organismes qui viennent s'héberger dans ces data centers-là qui demeurent responsables de leur système. Est-ce qu'ils ont testé la redondance chacun individuellement?
Ben c'est ça, je te parlais tantôt, JF, le contenant versus le contenu.
Oui, exact.
Autrement dit, on s'en fait un, nous autres, nous cinq, là, nous quatre, data center, puis on va dire, ben voici, je te donne l'infrastructure, qui est toi, ton rack, il est là, puis tu t'organises dans ton rack, that's it. Là, la ligne de démarcation, à un moment donné, elle est là. Mm-hmm. Surtout quand tu regardes chez Hypertech, la façon dont ça fonctionne, veut dire c'est de la colocation tout partout. Ben oui, eux autres, ils donnent l'électricité, mais après ça, c'est à toi de t'assurer que tu as un UPS, parce que si eux autres décident de couper, ils t'avertissent, mais tu n'as pas le temps de réagir, ben il faut que tu sois conséquent avec tes affaires.
Non, ouais, exact. Ouais. Exact.
Hey, je vous ai mis de quoi de drôle dans le chat.
Oh non.
Ça, c'est une compagnie. Hey, ça, c'est. Je ne veux pas la nommer, là. Je ne veux pas m'attirer des foudres, là, mais c'est un data center à Montréal qui héberge du stock en tabaslac. Puis on fait comme la patente à Québec, là, qui était la station de filtration des eaux. On a le virtual tour en HD de tout le data center. Fait que t'es capable de voir les poignées, t'es capable de voir les marques, les modèles des équipements, t'es capable de savoir les génératrices sont où, la salle des gicleurs est où, t'es capable de voir les angles de vue des caméras. Sérieusement, là, moi, je veux péter ce data center-là. Là.
Vous mettez tout... Hey, t'as tous les modèles de tout en dedans. Là. S'il y a des exploits de quelque part, c'est sûr que tu les trouves.
D'après moi, je vais lire la version de firmware en arrière du UPS. Là.
Non, mais tu sais, c'est pas pire. Au moins, ils ont frosté les petits écrans. Fait que tu vois pas l'adresse IP des génératrices à distance. Là, mais tu sais, ça reste que, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Là.
Mais imagine, avec toute cette data-là, cette info-là, tu peux appeler le gars et dire... J'ai besoin de telle info dans telle salle, puis tourne à gauche à telle place, puis tourne à droite à telle place. Il va comprendre que tu connais la place, là.
Hey, tu combines ça avec l'ingénierie sociale, là.
Ah non, c'est
une crédibilité absolue.
Ouais,
100%.
Ah oui, en arrière du poteau rose, là. Oui, là, là. Alors,
non, mais
c'est ça. C'est Tu as bien raison là-dessus.
Juste pour le fait de la dernière photo du set de Francis, là, tu vois-tu la même. Est-ce qu'il y a la porte avec le lecteur de cartes? Tu vois-tu la même affaire que moi qu'en haut à droite, ben, tu amènes une petite échelle puis tu bypasses la porte?
Oui.
Oh, il y en a un, c'est assez ridicule, mais tu peux te promener en 3D, hein, tu peux te promener dedans. Fait que je sais pas c'est quelle photo exactement que t'as, mais t'as même un plan, tu sais, vous êtes ici, là, tu sais, avec des plans d'étage, avec toutes les. Avec toute la faut que tu cliques de temps en temps sur le bouton More Info, puis de temps en temps, il t'explique, là, c'est ça, t'apparaît, puis il te montre où est-ce que t'es. Mais oui, il y a des affaires là-dedans, tu dis, mais mon Dieu, Seigneur, ça n'a pas de sens.
Là, Steve, la MMR1, là.
Hey, ils n'ont pas tous blurré les écrans, je m'excuse.
Non, c'est ça.
Non, c'est pas tout blurré, là.
Hey, tu peux même mettre ça avec des lunettes VR, là, puis comme tu dis, Francis, ça complète ton immersion dans l'affaire.
Non, mais tu sais, on voit des affaires dans les films, là. Tu sais, une équipe tactique, on veut plus ça dans le militaire, mais une équipe tactique qui se prépare, tu sais, qui s'entraîne, on va prendre telle position, on va rentrer là, on va. Tu sais. Là, tu me donnes toute l'information à 3-4 gars. À 3 gars, on prend le contrôle de cet endroit-là. C'est comme pas trop long. Là, m'a dit une affaire, ça serait même pas compliqué. Mais tu dis, pourquoi vous mettez ça en ligne? T'sais? Ben, la raison, je le sais, parce que j'ai connu un des gars qui était responsable de la sécurité là-bas, qui dépendait des États-Unis. C'est qui le vrai CSO de la compagnie? Un Américain qui est probablement jamais allé sur le site. C'est lui qui donnait les commandes. Et c'était une question de marketing. Il voulait montrer que notre site, il est beau. Notre site, il est sécuritaire, notre site est. Mais là, c'est du marketing. Et en passant, vous rappelez-vous de 4 degrés qui était à Québec?
Oui.
Mm-hmm. En fait, c'était moins pire à l'époque parce qu'il n'y avait pas de réalité virtuelle, mais 4 degrés, quand tu connectais sur le site web, la page d'accueil, c'était la bâtisse, pas de toit, qu'on voyait à l'intérieur, tous les chemins avec toutes les portes, puis on voyait la salle des gicleurs, puis on voyait tout au complet.
Oui, ça me dit quelque chose en plus, oui.
C'est magique.
Ben, c'est beau. Côté marketing, c'était écœurant. Et côté sécurité. Et ça, quand on parle de souveraineté, moi, je pense qu'il faut ramener la totalité. Il faut avoir du brick et mortier qui nous appartiennent. Il faut sécuriser nos infrastructures.
Ouais.
Et on en a déjà parlé ici. La souveraineté absolue, elle n'existe pas parce qu'on ne commencera pas à développer nos chips et développer nos systèmes d'exploitation. Pis, dans l'absolu, on n'ira pas là. Mais entre 0 et 100, je pense qu'on est capable relativement de faire un bout, là.
Mm-hmm. C'est Vantage Data qui a acheté ça, que Vidéotron a vendu ça.
Qui, 4 degrés?
4 degrés, Vidéotron a vendu ça à Vantage Data.
Ouais. Oui, effectivement, oui.
Ben, c'est là qu'est installé Microsoft. Dans le cloud québécois de Microsoft était chez Vantage à Québec.
OK.
Ah bon?
Puis pour revenir à un des points un peu intenses, là. On a parlé des courriels tantôt au début. Courriel, c'est au gouvernement du Québec, c'est 83% que tu as trouvé qui est hébergé au US, évidemment à Microsoft.
Oui.
Ça fait, tu sais, on parlait de données sensibles qui se retrouvent partout dans Teams, puis dans email, puis pas à bonne place. C'est pas mal là que ça se retrouve généralement dans les courriels.
Exact.
Puis on a vu assez d'exemples qui s'envoient ça dans leur courriel personnel en plus.
En plus, évidemment.
On verra pas dire que c'est catégorisé comme du monde. Fait que 83% au gouvernement. Dans les grandes villes, on parle de 71. PME, grande entreprise, 26. Quand même surprenant. Ils sont plus locales. C'est les pays, excuse, pas pantoute. 83, même affaire que le gouvernement.
Non, c'est ça, j'étais surpris un peu, là.
Oui, mais les PME sont un peu plus grandes à 87 au lieu de 83.
Souvent, il n'y a pas d'expertise, hein, puis moins tu as d'expertise.
Non, Jean-François, là, c'est pas fin de dire ça, voyons.
Non, mais...
C'est pas fin.
Non, mais pour vrai, là, quand t'es dans une PME de, je sais pas, 150 employés, t'as pas nécessairement une team de 25 personnes en TI, là. Je veux dire, en premier, c'est tes opérations, puis après ça, ben, tu vas avoir un consultant, tu vas probablement mm-hmm. avoir un tech à l'interne qui connaît-tu les best practices, c'est quoi sa formation, tu sais. Il n'y a pas nécessairement...
Non, puis quand on parle des PME, là, je suis là-dedans à l'université, là, sur mon projet de maîtrise, là. La majorité des PME au Québec, là, au Canada, c'est en bas de 50 employés. Là. C'est-à-dire, oui, en théorie, une PME, ça va jusqu'à 500, mais en théorie, là, quand on regarde les vrais chiffres et statistiques, 50, là, Les PME, là, c'est tout en bas de 50. Là. C'est de la quasi-totalité, c'est en bas de 50.
Exact.
Effectivement, on est là. Là.
Mais là, j'aime la relation là, que tu as faite, par exemple. Parce que tu dis, ils n'ont pas la compétence. Fait que c'est pour ça que le chiffre est à 87 % pour les PME. Mais au gouvernement du Québec, on est à 83 % là. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi le lien qu'on peut faire.
Le lien est complètement différent. Le lien est complètement différent, sincèrement. C'est que, tu sais, dans les PME, ils ont besoin d'avoir des produits packagés, faciles à utiliser.
Oui. Plug and play.
Plug and play.
Oui.
Du côté gouvernemental, c'est parce qu'ils ont eu un gros contrat d'acquisition.
Non, c'est du lobbying, on s'entend.
100%, là, je veux dire. Tu sais, il y a un contrat pratiquement pour Microsoft pour héberger tous les mails du gouvernement du Québec, là, je veux dire. Moi, c'est ça mon constat, c'est qu'ils ont dit à un moment donné, puis c'est probablement relié avec le début de la pandémie, tu sais, quand tout le monde s'est en allé sur Teams tout d'un coup, là les vannes étaient ouvertes là, pour dire, bon, ben away go, là, on signe un contrat, puis on va payer ce que vous nous mettez dans le bas, tu sais, c'est probablement de même que ça a été dealé, là, c'était dans l'urgence extrême, c'est dans maintenant là, qu'on a besoin de mettre tout le monde à la maison fonctionnelle. Fait que, c'est probablement un restant d'historique de ça, là, tu sais, avec quoi on vit aujourd'hui. Tu sais, tout le monde s'est en allé vers là. Fait, tu sais, c'est deux façons complètement différentes, c'est deux raisons complètement différentes pourquoi sont toutes chez le même fournisseur qui est Microsoft / Teams. Tu sais, c'est tout du Outlook, Teams et tous les produits qui vont avec. Là, c'est un package, là, c'est genre un Office E3, ça vient avec... ta licence complète, 2 Tera de stockage sur OneDrive, puis etc. Tu sais, puis c'est ça. Et là, la force des fournisseurs américains actuels, là, c'est qu'ils ont...
On vend l'écosystème au complet.
Ils te vendent le kit au complet. C'est même affaire chez Google. C'est juste, entre guillemets, moins populaire parce que la suite Office qui vient avec, qui est Google Workspace, les gens la connaissent moins, puis ont besoin plus de travailler pour se faire la main. Mais ultimement, ça finit par marcher pareil. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il en existe des solutions que tu peux installer chez vous, on-prem, qui vont faire exactement la même job que ça. Je sais qu'il y avait le gouvernement français qui en avait développé une, là, mais mettons que tu prends un produit plus grand public, genre Nextcloud, tu peux t'intégrer une suite complète de la vidéoconférence que tu installes chez vous, toute la kit, mais il n'y a pas personne qui a l'expertise de ça au gouvernement ou en PME. T'sais, ils travaillent pratiquement pas avec ça, ils sont tellement tagués Microsoft. Tu as des méga équipes pour travailler ces produits Microsoft au gouvernement, puis l'équipe Linux totale du gouvernement, tu vas avoir peut-être 150 personnes qui connaissent ça.
Ça, c'est un bon point. Parce que tu sais, en start-up et en grandes entreprises très tech, tu n'as pas d'affaire d'expertise de produit ou pas. Tu es un engineer, là, un développeur ou un architecte là, technique. Mm-hmm. Puis quand ils te disent de faire quelque chose, tu le fais, même si tu n'as pas l'expertise, tu t'organises. Mais ça n'existe pas ça au gouvernement, s'organiser pour apprendre. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas personne qui le fait, là, mais ce n'est pas la mentalité puis ce n'est pas l'approche non plus. Ça fait une méga différence.
Il n'y a pas beaucoup d'informations en français, il y en a qui clament, tu sais.
Oui, mais là, ça va faire, là, le français seulement. Là. Je suis désolé. Là.
Non, mais alors, faut faire attention, le français. Linux, on est capable d'avoir ça en français. Je veux dire, à cette heure, ça, on en a déjà parlé sur le show souvent. L'éducation. Je regarde mon neveu, là, mes deux petits neveux, ils vont dans une école, ils travaillent avec des tablettes Apple. Fournies par qui, devine? Apple. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là? C'est comme un pusher. T'sais. On est en train de les apprendre à être dans cet environnement-là. Quand ils vont arriver au secondaire, ils vont acheter quoi comme ordinateur, tu penses? Ils ont toujours été là-dedans. Demain matin, ils commencent à rentrer des trucs comme LibreOffice, OpenOffice, de Linux à l'école, puis commence à intégrer ça dans l'éducation. Hey, tu as toujours utilisé, toi, là, je suis tout mêlé. C'est LibreOffice qui roule encore, là, c'est ça?
C'est ça. OpenOffice, là, mais.
Bon. Mais mettons LibreOffice. Tu as toujours utilisé LibreOffice à l'école, ça a toujours marché. Là, tu as un ordinateur à la maison, tu as le choix d'installer LibreOffice ou payer pour Word. Ben moi, je vais rester avec LibreOffice. Je sais comment il marche, ça fait mon affaire, il fonctionne. Mais quand on travaille juste dans un environnement, c'est difficile, Steve, de je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est dur de sortir d'un environnement.
C'est un learning curve. Ça, je
veux dire, oui, mais on a passé par là, là-dessus. Là. Toi, tu étais au public, monde, probablement, quand tu étais jeune. Tu as les Quantum Matra, qui venaient de France, qui a fait un autre belle... un bel exemple de d'échouage de projet. Après ça, ça a été remplacé par des PC XT et ou des Apple IIe. Après ça, ça a été upgradé à des Mac. Puis ça a-tu pris plus de place sur le marché? Non, c'est la proportion de Windows, elle est toujours de
dans les 80%. L'approche de Windows, là, c'est qu'ils ont vendu aux écoles en premier.
Ben oui.
Puis à toutes les, les écoles de computer science en informatique.
Fait que t'as raison, oui. C'est partout. L'iPad va demeurer parce qu'il est convivial, c'est une belle plateforme, ça va bien, ouais. Etc. Mais demain matin, tous les étudiants que je vois à l'université, puis t'es vous dans ta classe aussi, là, sont avec des MacBook Pro, des MacBook Air, puis c'est ça. Sur le marché du travail, ils n'en auront pas de ça.
Bien, au Québec, non. Partout ailleurs, c'est ça, par exemple.
Oui.
Mais on est ben trop Microsoft ici. Hein. C'est fou raide. Là.
Ah, ben, mais il faut casser un petit peu ce moule-là. Il y a d'autres affaires qui existent. Ben et oui. En passant, le cloud, je sortais des chiffres avant la rencontre tantôt. Et il y a un ralentissement, il y a un retour sur le on-premise depuis à peu près 2019-2020. Hein. Pas majeur, mais il y a un ralentissement, il y a un retour. Parce que les gens se rendent compte que le cloud, c'est super bon quand on fait, par exemple, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là. Scalable, tu sais qu'on est capable de...
Ouais, d'augmenter. Oui,
ouais, l'élasticité.
De variabilité. Et si toi, là, tu as 2 téra de données, et que l'année prochaine, tu vas avoir encore à peu près 2 téra, puis dans 4 ans, encore un peu 2 téra, tu n'as peut-être pas tant d'avantages que ça à tout sacrer ça dans le cloud. Probablement que tu es capable de t'acheter un NAS, le mettre à Montréal, t'acheter un NAS, le mettre à Québec, puis transférer tes infos la nuit. T'sais. Probablement, là, tu vas rentabiliser ça en 2 ans et demi, là, au lieu de payer de tout le temps que tu vas avoir tes données. Mais oui, il y a des grosses tendances. Puis moi, je le vis présentement en sécurité. Là, sérieusement, je pleure. Il y a des compagnies où ton système d'alarme, tes détecteurs sont dans ta compagnie et il n'y a pas de panneau d'alarme. C'est tout transféré dans le cloud. Fait que quand tu n'as plus d'Internet, tu n'as plus de système d'alarme. Fait que là, tu dis, mais voyons donc, c'est qui a pensé à ça? Ouais, mais le client, il aime ça. Puis là, tu fidélises le client. Là, le client, il est attaché, man. Il est en seul son contrat, temps, il est mort.
Oui.
Ça n'arrive jamais, ça, qu'on paie l'Internet non plus, hein? Ben non.
Ça n'arrive jamais. Fait que,
terminons ça sur 2 petites notes. Je veux lire un des derniers tableaux de ton rapport. Les partis politiques. Moi, je trouve ça drôle.
Partis politiques.
Les partis politiques qui sont très, très, très Québec et très local. Évidemment, le Parti québécois qui est hébergé en France puis aux US. Félicitations pour votre beau programme. La CAQ, Cloudflare et Google. Parti libéral, Cloudflare et Microsoft.
Ah, c'est Québec pas le Parti libéral, je vais faire ma langue sale, j'aurais pensé qu'il était hébergé en Chine. Mais bon, c'est le Parti libéral du Québec, OK, c'est pour
ça. OK,
je m'excuse, c'est le Parti libéral du Québec, ils sont pas en Chine, OK, je comprends.
Ils sont sur Amazon depuis Outlook au fédéral. Ah non, mais Québec solitaire, quand même spécial, ils sont sur DigitalOcean, ils vous laissent la péter, puis Google...
Absolument, écoute, j'ai vraiment été surpris parce que je me suis...
C'est 100% US.
Absolument. En fait, celui le plus inattendu que j'ai trouvé là-dedans, c'est le Parti conservateur du Québec. Je pense qu'il y a son site web hébergé au Québec, je me souviens. C'est soit le site web ou le site web est hébergé au Québec. Mais pour le reste, là, sont tous dans des services étrangers, toute la gang, incluant ceux, tu sais, que je me serais attendu Québec solidaire et le PQ au minimum, là, tu sais...
Quel message
on achète local, tu sais. Mais c'est parce que, mais pour vrai là, c'est ce que je réalise, c'est que les gens là, quand tu leur parles d'achat local, ils se disent, ben je vais aller acheter mes clous à Quincaillerie Canac.
Mes clous, mes tomates, aussi.
Non mais tu sais, je vais aller acheter mon.
Ça reste des produits de la putain de Chine, ouais c'est ça.
Ben tu sais, je comprends qu'en arrière, c'est tout fait en Chine, mais à la limite, tu sais, au moins t'as une entreprise locale qui se prend une cote, mais là t'as même pas d'intermédiaire, tu chips direct ton cash à l'étranger. avec ces entreprises là, moi c'est un des constats que j'ai fait. Prôner l'achat local, c'est pas juste dans des biens physiques, c'est aussi de dire tabarouette, mes biens numériques ils viennent de où? C'est quand même tough, là. Honnêtement, là, j'essaye, moi, personnellement, pour mon entreprise, puis pour moi, personnellement, j'essaye de tout le temps regarder, j'ai-tu une option locale pour acheter? Puis dernièrement, j'ai trouvé une compagnie canadienne qui fabrique des UPS. J'ai vraiment été surpris, là. Tout le monde connaît Schneider APC, puis Eaton, puis toute la patente, c'est tous des Américains ou des multinationales ou peu importe. Ouais. Mais il y a une compagnie qui s'appelle PowerOn qui fabrique des UPS en BC. Je dis, OK, fine, c'est là que j'achète mes UPS. Fait que mes UPS viennent de là. Après ça, ben, tu sais, essaye de trouver des logiciels qui sont développés ici. Tu sais, on a quelques-unes quand même des solutions locales. Mettons, tu as Shopify, je pense, qui est à Ottawa, si je ne me trompe ouais. pas. Tu sais, on en a des fournisseurs, puis on en a des entreprises d'ici qui font du stock, du logiciel, qui hébergent ici. Il y en a des hébergeurs québécois, canadiens, puis qui vraiment sont installés ici. C'est cool, mais ils ne sont pas utilisés pratiquement. Là. Moi, c'est ça mon constat, là, c'est que c'est, on a plein de belles entreprises ici qui le font, puis malgré ça, on s'en va chez AWS, Microsoft, Google, c'est les trois gros. Tout le monde ouais. s'en va là. Du monde ouais. hébergé chez Micrologic, là, j'en ai vu aucun là, là-dedans. Dans tout ce que j'ai trouvé là, là j'ai pas vu un site ou un email qui est chez Micrologic. Là. Probablement en arrière, ils ont des systèmes puis ils ont des trucs de mission, peut-être qui sont hébergés là, là. Mais j'en ai pas
Montréal, vu. Montréal, c'est la plaque tournante de l'intelligence artificielle dans le monde. On a comment de solutions d'intelligence artificielle de on déployer?
Des AI, ouais, y a pas
on a comment, là, vraiment, là, qu'est-ce qu'on a de Canadiens qui compétitionne ChatGPT, Gemini,
tout ça? J'en ai trouvé un hier. J'en ai trouvé un hier. Oh? Si vous me laissez 30 secondes, là,
mais je vais est-ce
vous
que c'est local, l'outil, ou il dépend de l'autre puis il garoche les
données? Non, il est full Canadien.
Oh, ouais.
Nice. Augure AI. A-U-G-U-R-E, AI, que j'ai trouvé, oh. que je l'ai essayé à matin. Puis honnêtement, j'ai juste envoyé des reports smart parce que je voulais qu'il me fasse une analyse de disque. Là. Puis après deux prompts, j'avais épuisé mes crédits gratis pour la journée. Là. Mais honnêtement, là, il m'a quand même donné des bonnes réponses. C'est pas du tout
proche. C'est-tu getaugure.ai, c'est ça le site?
Oui, augure.ai.
Ouais. IA pour accomplir les choses sur notre sol. Intelligence d'entreprise, souveraineté des données complètes conformes bon, dès la conception. En français et en anglaise. Il y a les deux.
Oui, tout le kit. Ben, vraiment, là, j'ai trouvé ça hier. Je l'ai essayé un matin. J'ai dit, tabarouette m'a cancellé Claude.
Bon, ben, en espérant qu'il ne colle pas Claude en arrière. Fait que on ouais. va checker ça.
Ben, ça il roule les modèles au Pentium 4 et au Fino 2.5.
OK, fait qu'il a téléchargé les modèles, mais il roule local. OK.
Ouais, Ossington 4, t'as Fino 2.5. Les prix, c'est quand même pas pire. Là. Ah, à 20$ par mois, t'as le Pro. 80$, t'as le Max.
Non, ça a l'air d'avoir
on va sens. Essayer ça. On va essayer ça.
Le tiers de base est assez. Il est assez chiche, je dirais. Là. C'est pas long que tu l'as épuisé. Là. Mais il se reset à tous les jours. Fait que tu contrairement à Claude, tu sais à quelle heure tu as rendez-vous avec. Plutôt que de te dire reviens à 14h ou quelque chose, c'est reset à minuit. Fait que tu as accès. En tout cas, ça a l'air d'avoir du bon sens. Puis ils ont l'air d'avoir une spécialité sur le légal. Ce qui a l'air quand même intéressant aussi, là, quelqu'un mm-hmm. qui a du contrat à faire et tout. Là, ils ont une spécialité sur le légal. Fait que je l'ai trouvé super intéressant. Je vais le tester là, dans les prochaines semaines, là, c'est sûr. Là. Voir s'il peut remplacer mes besoins TI.
Le tout sera dans les show notes, les liens qu'on vient de parler, puis évidemment ton rapport, Jean-François. Mot de la fin, d'autres choses à rajouter?
Ben merci infiniment de m'avoir reçu. Je suis super, super honoré d'avoir pu être sur votre show. C'est un show que je suis de temps en temps à gauche, à droite, mais là, d'être là, c'est super, là, vraiment cool. Merci.
Effectivement, j'en prends ça. Puis merci pour le rapport parce que c'est une discussion qui va se continuer. Moi, je l'utilise en exemple souvent, je te le dis tout de suite, tu ne l'as pas perçu ailleurs. Mais tu sais, ça va devenir à ce moment-là le talk of the town, comme on dit. Et pour que les gens, à un moment donné, là, fassent le move, autrement dit, là, parce qu'on l'a vu en Europe, l'Allemagne le fait, oui. Sacré Microsoft dehors, l'Union européenne pour 220 millions d'euros par année. Microsoft dehors.
220 millions.
Oui, oui. C'est juste des licences. Attention, c'est juste des licences.
C'est des licences, là. Oui. C'est pas les machines, là. C'est juste les licences.
C'est pas le support, c'est rien d'autre. Là.
Non, non. fait, c'est des gros chiffres à demander quand tu regardes ça. Mais en même temps, tu sais, c'est des gros, c'est une grosse population là-bas. Fait que on a intérêt à regarder ça, nous autres, ici, de cette manière-là. Oui. Puis le cloud allemand qu'ils ont pris, qui est un cloud national, là, qui est Nextcloud, me semble.
Si oui, Nextcloud, exact.
Et,
j'utilise depuis 2017. Hein. Ça marche tempête, c'est super bien.
Ben, c'est tout ce que je lis à date. Je ne l'utilise pas, là, mais merci de le confirmer. Ça dit tout que oui, ils l'ont fait bien. L'ingénierie allemande, on va toujours s'en rappeler, c'est toujours bon. Mais en même temps, sous aussi l'auspice du RGPD, le Règlement général de la protection des données personnelles en Europe. Alors ça, c'est deux gages de confiance pour moi. Ça va à peine de dire « Hey, on va aller là à la place. » Parce que cite, là, demain matin, là, la loi 25, ça va-t-il influencer quelqu'un de faire quelque chose de droite? Pas bien, bien, là. Avec un peu de cynisme, je dois l'avouer, tu sais, il ne se passe rien avec la loi 25, malheureusement. Mais on verra dans un futur rapproché, là, mais il ne faut pas lâcher ça. Puis Pat, moi, j'ai à proposer qu'on fasse un suivi de cette discussion-là.
Puis un scan de nouveau.
Au retour à l'automne.
Oui, bien, pour le Hackfest, ce serait bon d'avoir un update.
Ah, ben regarde. Jean-François, t'es-tu disponible à le Hackfest?
Je regarde les dates, c'est sûr, je suis proche.
Moi, je le prends.
J'ai déjà gagné le concours de lockpicking au premier Hackfest, je tiens à préciser.
Bon, ben moi, je t'invite à Pollard, Jean-François, parce que là, j'ai une certaine influence, là. Puis je crois que ce serait une bonne tribune, Pat, pour qu'on puisse poursuivre cette discussion-là.
100%. Puis ce qui est intéressant, ce que je disais avant qu'on commence, Jean-François, c'est que le Hackfest, on parle de ce sujet-là depuis un bon moment. Puis quand on a créé Pollard, c'est quoi, il y a 3-4 ans?
4 ans.
C'était le sujet de cette première édition-là, c'était la souveraineté des données.
Mais messieurs, moi, j'ai une idée qui me tracasse, là. Mais
ben oui, ben oui.
Ça serait-tu cool de développer un environnement de test mini-PME, là?
Oui.
Rien d'américain.
Oui.
Juste pour montrer la faisabilité de dire, regardez, là, ils ont de la vidéoconférence. Ils sont capables de faire des documents en texte. Hein?
On pourrait bundler ça dans un Docker. Ça
le village souverain, on va l'appeler de même.
Ben oui, why not?
Je l'ai déjà chez nous, les gars.
Ben voilà.
Fais juste Dockerize. Je vous ferai une petite présentation, je vous ferai le tour de la maison, c'est vraiment cool.
Ouais. PME souveraine, si tu as une espèce de package, tu installes ça, puis tu es fonctionnel, puis tu es 10 employés, puis tu n'es pas dépendant de Microsoft. Mm-hmm. Sérieusement, tu sais, quand on parle de trucs que le MCN pourrait livrer à des PME puis soutenir des PME, là. Hey, ça serait-tu cool comme package, là?
Oui.
Bien, on va le faire avant eux autres parce que tu sais, comme moi, Francis, là, il y a une élection qui s'en vient puis la vision risque de changer, là.
Il en reste un mois et demi avant d'arrêter de travailler.
Ouais, mais il n'y en a pas un qui est hébergé au Canada là-dedans, les gars, je vous le dis.
All right. Allez, merci encore. Puis,
merci, messieurs. Toujours un plaisir.
Yes, merci beaucoup.
Run out.
Ah, il marche là, le début du son.
Over and out.
Ah.
Ouais, quand je fais dessus, il veut rien savoir là-dedans.
Over and out.
There you go. All right. Peace.
The French Connection.
Défendre M. Courteau, parce que moi, dans le fond, moi, j'ai rien trouvé de bon dans le rapport. Toi, Patrick, est-ce que t'as pas pire, ça?
Chie dedans. Chie.
C'est pas vrai. C'est pas vrai, pas en tout.